Alors, tout se met en place. On est dans le dernier panel de ce colloque où, en fait, l'idée, c'était aussi d'avoir une création en acte grâce à Benoît. Donc, je suis très heureuse et surtout, je parle aussi pour Claire parce que je sais qu'elle tient beaucoup à ton travail, Benoît, donc de te présenter. Benoît Labourdette, qui est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle et fondateur du festival Pocket Film. Benoît, il écrit et réalise des documentaires, des œuvres expérimentales et participatives que vous pouvez retrouver sur son site. Sa démarche est créative et pluridisciplinaire puisqu'il intervient dans plusieurs champs comme la peinture, le théâtre, l'opéra, la photographie, l'architecture et la musique. Avec lui pour ce dialogue, on accueille Teddy Amar. Donc on ne se connaissait pas jusqu'à présent. Donc, vous avez fait des études de philosophie, de cinéma anthropologique. Vous avez pratiqué différents métiers dans le secteur de l'audiovisuel, dont celui de chef opérateur et réalisateur, en passant par le montage aussi. Et donc, aujourd'hui, vous vous tournez vers la production. Vous travaillez. Ah, mais j'ai plus noté le nom de la production déjà.
Le Bureau des Curiosités.
Voilà, le Bureau des Curiosités. Où vous officiez à la fois comme producteur, comme designer interactif d'expérience immersive, et vous participez au design et au développement d'un projet qui s'appelle Cocotte Minute, qui est une animation en réalité virtuelle interactive, et vous avez l'aide du CNC, notamment.
Et
la SCAM.
Ah, et la SCAM. Super. Et bien, je vous laisse la parole. Je pense que ça va se faire en trois temps. Premier temps, donc Benoît, tu vas nous parler un petit peu.
On va introduire tous les deux sur le sujet.
Et puis après, on va filmer un peu.
Voilà, voilà, ça va être en trois temps. Vous allez voir. Donc, tu nous as présenté, c'est bien. C'est vrai que, comme le sujet, c'est la question de la création, je pense que on peut parler de la création, mais on sait très bien que lorsque on agit avec la main, on ne pense pas de la même manière que si on n'est pas en train d'agir avec la main, en fait. Hein. Et je pense que la question du processus de création, c'est ce qu'on va aborder tous les deux, de deux endroits différents. Moi, plutôt sur la question du tournage en réalité virtuelle. Et
moi, plutôt de l'interaction, parce que je travaille plutôt à partir de moteurs 3D. Mais effectivement, on a peu parlé avec Benoît, mais là où on s'est très bien entendu, c'est que c'est l'outil qui allait permettre de créer. Et l'homme doit créer avec l'outil.
Voilà, et donc, alors, il est juste une question de temps. Là, il est 16h40, on a jusqu'à quelle heure exactement? C'est juste pour gérer le temps au mieux.
Bah, 17h30.
17h30?
Non, attends, ah bah non, 16h40.
17h20. 17h20, ok, 17h20. Donc, ce que je vous propose pour qu'on puisse parler en acte, alors déjà, j'ai apporté deux livres dont j'enlève les machins dessus. On a beaucoup parlé d'expérience, sans doute certains d'entre vous connaissent John Dewey. L'art comme expérience, ça date des années 1930, hein, à peu près. Et je crois que il pose à l'époque déjà quelque chose de très important sur qu'est-ce que c'est que l'art, et est-ce que l'art c'est la posture surplombante d'un artiste qui fabrique un objet légitime et qui est légitimé socialement, qui va s'imposer aux autres, ou est-ce que l'art n'est pas quelque chose de plus profond et qui concerne finalement l'expérience de chacun. Et c'est pour ça que dans mon idée, j'ai proposé qu'on fasse des choses ensemble, parce que finalement, même si on emploie des technologies nouvelles, etc., on peut être dans la reproduction sociale la plus éculée, finalement, de l'artiste génial et puis des spectateurs émerveillés. Et c'est vrai que dans beaucoup de choses qu'on a pu voir précédemment, on est dans une posture du 19e siècle, quoi, en gros. Et quand même, le web 2.0, ça existe, la contribution des gens, ça existe. Et ça peut paraître démagogique de dire ce que je suis en train de dire. Mais je crois et pour moi-même agir beaucoup dans le champ d'atelier, si vous voulez, je crois que, et c'est là-dessus que je vais ouvrir un petit peu, la réalité virtuelle des ateliers que je peux mener, par exemple, c'est proposer à des gens de faire des films dans des médiathèques, à la FEMIS, enfin, d'essayer des choses, et d'essayer aussi des dispositifs. Et puis, Marie-Josée Monzin, que vous connaissez sans doute, c'est une réédition, La confiscation des mots, des images et du temps. C'est vrai que, bon, bah, tu l'as dit, Jean-Jacques, réalité virtuelle, c'est un oxymore. À mon avis, faut être un peu, peut-être, au niveau scientifique, les gens, quand ils ont vu l'entrée du train en gare de la Ciotat, ils ont cru que le train leur fonçait dessus. Et pourtant, il y avait un cadre à l'image. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que, finalement, la sensation d'immersion, et tu l'as bien dit, Jean-Jacques, peut-être si on peut remettre l'image, c'est pas mal. Ouais, si tu peux.
Il n'a rien changé.
Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup, oui, si, ce que je veux dire par là, et on l'a vu, non, bah. L'immersion, ça reviendra. On est au cœur de. Voilà. c'est pas grave. Agissons. Ce que je vous propose pour qu'on le voit ensemble, c'est que je vous présente cette caméra. Du coup, c'est pas branché sur le truc, mais il y a plein de sortes de caméras de réalité virtuelle. Et il me semble que c'est intéressant de les expérimenter concrètement, parce qu'on peut imaginer des trucs, bien sûr. On peut s'imaginer, écrire des scénarios, etc. Mais quand on l'expérimente, peut-être, et c'est le cœur de la création, peut-être que quand on travaille, elle va nous amener à des endroits complètement inattendus qui n'étaient pas ceux qu'on avait prévus initialement. Et donc, c'est pourquoi ce que je vous propose, c'est que je vais faire un simple plan, et ensuite, tu feras un plan plus sophistiqué. Je fais un simple plan qu'on va regarder ensemble si l'image est revenue après. Donc, alors là, je l'ai mise en route. C'est con parce que c'est vrai que ça aurait été mieux de. Ah ouais, tu te branches en direct.
On voit si c'est ça. C'est pas un truc qui a bougé.
Bon, je pense que. C'est vrai que. Voilà, peut-être. Moi, j'ai parlé un peu de caméra. Parlons d'interactivité. L'image sera revenue et voilà. Ça ira très bien comme ça.
Alors, l'interactivité, pour moi, elle n'est pas uniquement dans le moteur 3D. Quand on parle d'environnement virtuel, on parle bien dans l'environnement boule. On pense à la sphère. Et dans la sphère, en fait, tout va être plus ou moins interactif pour l'utilisateur. Car ce qui se passe, justement, à l'inverse du train, on garde de la Ciotat, où on regarde un cadre qui est face à soi, on casse le quatrième mur dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve réellement au centre d'une sphère. Et donc, pour raconter une histoire, pour narrer quelque chose, il va falloir créer des points d'intérêt au sein de cette sphère. Et ces points d'intérêt, ce sont des éléments sur lesquels va réagir le spectateur. Et le spectateur ne va pas réagir systématiquement en fonction des mêmes points d'intérêt. C'est-à-dire que son action, son interactivité, c'est réellement en fonction de ce qu'il ressent. Peut-être que s'il y a une scène avec une jeune fille qui se fait mal au genou et un homme qui est en train de boxer à côté, de l'autre côté de la scène, deux mêmes spectateurs ne voudront pas regarder la même chose et ne seront pas, n'auront pas envie et donc ne vivront pas la même expérience. Ce qui fait que l'interactivité, elle est au cœur de la réalité virtuelle pour l'utilisateur. Pour moi, la création, elle passe aussi beaucoup par le récit, même si j'aime beaucoup l'image. Et donc, les enjeux de la création narrative en réalité virtuelle va être de créer cette continuité dans les différentes zones d'intérêt du spectateur, qui vont quand même permettre de créer un récit qui va avoir donc ses temps faibles, ses temps forts, qui va dérouler une narration. Parce qu'il faut malgré tout qu'il tienne la suspension d'incrédulité du récit essentiel. Et effectivement, s'il est happé par d'autres choses, le récit est perdu. Et donc, on se retrouve donc à vivre une expérience, mais au-delà de l'expérience, vivre une. Parce que les premières immersions, c'est, c'est la littérature, ou c'est même les premiers conteurs. C'est la tradition orale. On raconte une histoire et on est dedans, on est le héros. C'est vrai que la réalité virtuelle nous immerge là-dedans, mais pour nous immerger le plus fortement possible, il faut qu'on arrive justement à tenir ce fil ténu de l'histoire. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. C'est pour ça que j'utilise l'interactivité qui est plus simple, parce que le temps réel de l'action du joueur correspond à son temps dans l'expérience. Et rien que ça, cette façon de faire coïncider son acte, même si c'est précieux une gâchette, avec une action au sein d'une expérience, c'est quelque chose de satisfaisant, qui le ramène et qui l'ancre dans cet univers qui est, et là je suis bien d'accord, le terme de réalité virtuelle est vraiment pas bon, qui est plutôt un simulacre, et en tout cas tout sauf du réel, mais qui permet de l'immerger plus fortement dedans. S'il y a une réalité virtuelle, ce serait plus comme un documentaire, une écriture du réel, y compris en réalité virtuelle. Donc il y a le fait de faire coïncider les actions donc du joueur dans le réel et dans l'immersion. Et il y a aussi, pour moi c'est le vrai plaisir, c'est l'exploration et la satisfaction pour l'utilisateur d'explorer cet univers qui est en 360. Faut garder cette joie. Enfin, c'est vrai que moi j'adore le cinéma, j'adore être assis devant un quatrième écran et le regarder pendant très longtemps et voir ce qui se joue dedans. Mais c'est vrai qu'en réalité virtuelle, il faut absolument pousser à l'action. C'est cette envie de regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus. Et maintenir cet intérêt, c'est un peu pousser. Pousser dans l'expérience. Je te repasse la main.
En fait, ce que je vous propose, c'est, comme j'avais quand même filmé un petit truc, c'est qu'on regarde ce que ça donne, pour être concret. Et après, en fonction de ça, ce que je vous proposerais, c'est qu'on en discute un petit peu, que vous proposiez des idées. Et on a une femme caméra avec nous qui est là et qui sera notre opératrice. Hein, et... ce qu'on va faire là, parce qu'on parle de création, donc la création, c'est fabriquer quelque chose. Donc on va fabriquer quelque chose de modeste, hein, dans le peu de temps qu'on a, mais on va quand même fabriquer quelque chose. Et cette chose, une fois qu'on l'aura fabriquée tout à l'heure, je vous préviens, je la mettrai en ligne et vous pourrez y accéder grâce à ce QR code. Donc ce qu'on fait là, si vous voulez... je vous donnerai après, enfin pour ceux qui ne savent pas utiliser les QR codes, hein, je vous expliquerai comment faire, c'est pas très compliqué. Donc simplement, j'attire votre attention sur le fait que ce qu'on va créer, c'est dans la réalité. Hein, et j'ai un objectif que je vous propose qu'on ait, parce qu'on crée quand même pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et je vous propose qu'on crée pour quelqu'un. Voilà. Et cette personne, certains d'entre vous la connaissent, elle s'appelle Claire Châtelet. Elle était là hier, mais elle n'est pas là aujourd'hui parce que voilà, elle a fait un malaise, etc. Donc j'ai dit à Claire, écoute, c'est pas grave que tu ne sois pas là, c'est encore mieux finalement que tu ne sois pas là, parce qu'on va créer quelque chose pour toi. Donc je vous montre juste les images que cette caméra a faites. Et du coup, vous avez vu, j'ai pris quelques petites notes. Je les mettrai aussi derrière le QR code, ces petites notes, pour garder une trace. C'est ça la création, c'est la trace aussi des choses. Alors, cette caméra, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a différents types de caméras de réalité virtuelle, mais celle-là, en fait, comme vous le voyez, elle a deux objectifs, d'accord ? Donc, peut-être pour certains d'entre vous, c'est absolument évident ça, mais peut-être pour d'autres, non. Donc en fait, c'est deux fisheye comme deux yeux de porte, en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent 180 degrés, hein, 180 degrés d'un côté, 180 degrés de l'autre côté. Donc ça prend les 360 degrés. Et alors, je vais vous montrer ce que ça fait concrètement. On va regarder les rushs donc, que j'ai filmé là, tout à l'heure, là, pendant que ça ne marchait pas. Alors ça... Ça, c'est les rushs qui sortent de la caméra, voyez. C'est ce qui est... Donc on voit les deux objectifs. Donc là, on n'est pas encore du tout dans la réalité virtuelle, hein. On est dans les rushs originaux. Et alors, il y en a encore une fois pour qui c'est sans doute évident, mais à partir de ces images-là, là, il y en a deux mais on peut en avoir beaucoup plus hein, pour avoir des qualités d'image meilleures. Et on va faire une opération qu'on appelle le stitching, qui est de rassembler ces images-là sur une boule, enfin une fausse boule, parce que c'est pas du tout une boule en réalité, mais enfin, en tout cas, qui va être simulée sous forme de boule quand on est dans le casque grâce au capteur. Et quand on l'ouvre avec VLC, alors c'est pas bien goupillé, mais on peut, avec VLC, vous voyez, faire un peu, alors c'est mal, parce que regardez, en haut, c'est vraiment tout pourri, mais parce que c'est une petite, on va dire, une petite simulation qu'ils ont mise, mais on peut quand même se rendre compte un petit peu, et donc on voit que, vous voyez, la caméra, elle est un petit peu annulée. Si c'était dans le casque, ça marcherait mieux. Alors, fort de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme film pour Claire, là, tel qu'on est là? On peut faire simple, on peut faire par exemple un travelling parmi tout le monde. Je crois que c'est assez important, ça a été dit un petit peu, mais on nous dit, ouais, la réalité virtuelle, on voit partout en 360, il n'y a plus de cadrage et tout ça. C'est vraiment des conneries, hein, ce genre de discours. Pourquoi? Parce que, évidemment, que la distance de la caméra à l'objet, la hauteur de la caméra, le mouvement de la caméra, ça agit comme une forme de cadrage. Enfin, c'est absolument évident, hein, ce genre de choses. Et c'est pour ça que, et ça, c'est un truc quand même que je voudrais dire, c'est que derrière les termes de réalité virtuelle, c'est vraiment du marketing, ce truc-là. C'est pour nous vendre une fausse réalité. Puis, en l'occurrence, ça marche pas. Et tant mieux, les gens n'achètent pas de caméra de réalité virtuelle, tant mieux, parce que c'est vraiment un projet de marketing. Et moi, je trouve ça un petit peu problématique, alors que précisément, la liberté du spectateur, eh ben, c'est aussi peut-être la liberté de sortir de l'image. Enfin bref, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour Claire? Alors, juste un truc, avant qu'on le fasse, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un film qui était en deux versions, en version plat et en version virtuelle. Et ce qui est étonnant, c'est que les rushs que je viens de vous montrer, ben, moi-même, le premier film que j'ai fait en réalité virtuelle, qui est celui-là, qui s'appelle Photo du chantier, j'avais tout un projet, c'était un chantier, photo, filmé plein de plans dans un chantier, je voulais faire tout un machin, et en fait, finalement, j'ai fait tout mon tournage, et finalement, le hasard a fait que la photographe qui m'accompagnait sur ce chantier, finalement, à la fin du tournage, on a discuté, et moi, je tenais la caméra, et on a discuté, ça a fait un plan séquence de 12 minutes qui était beaucoup plus intéressant que tout le projet que j'avais eu. Et finalement, le film, c'est ça. Il n'existe pas dans un casque. Et finalement, le fait d'être confronté comme ça au devant et à l'arrière, c'est là où je voudrais parler de création. C'est-à-dire que cet outil, il m'a amené, moi, à faire un objet qui n'était pas du tout l'objet que j'avais prévu initialement. C'est ça la création aussi, hein. C'est le bricolage, hein. Et c'est ce qu'on voit avec tout le mouvement des Fab Labs, où on expérimente, on se trompe et on arrive à des endroits inattendus. C'est ça le travail, en fait. Parce que, de l'autre côté, c'est une volonté de maîtrise, qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le travail. Et en tout cas, avec le travail créatif. On veut tout maîtriser. Et je pense que c'est là la différence entre les tutelles, les financements, etc. Et puis les artistes, qui sont là pour être libres et pas pour être au service du grand capital, comme on dit, oui.
Mais par rapport à juste la position dans laquelle vous placez la réalité virtuelle, c'est bien une position de réalisation, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de réalité virtuelle type avec le RuneScape, parce qu'à ce moment-là, la position du cadrage et tout ça, enfin, c'est la liberté de l'utilisateur, alors que du coup, vous positionnez par rapport aux caméras 360, donc au film de réalité virtuelle. Et du coup, la création du réalisateur...
Je me place à cet endroit-là, en effet. Et c'est à cet endroit-là que je vous proposerai qu'on fasse une expérience ensemble. Absolument, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Claire, du coup? Qu'est-ce qui pourrait être sympa, qui pourrait peut-être à la fois être sur le sujet? Et si j'ai montré l'exemple du binoculaire, je pense que ça peut être sympa d'imaginer les deux types de films, en fait. C'est-à-dire, pourquoi pas voir les rushs originaux, parce que je trouve que voir l'avant et l'arrière, c'est intéressant. Et puis, ça peut être un film qu'elle pourra regarder dans son casque tranquillement chez elle, je sais pas si elle en a un, mais après il y a aussi ce genre de choses, vous voyez, où on met à plat, ça c'est le film stitché mis à plat, vous voyez, où on peut ça fait du coup des perspectives hyper intéressante. Ça, c'était dans le cadre d'un workshop qu'on avait fait à la FEMIS sur la réalité virtuelle. On peut imaginer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on ferait ? Tiens, viens, parce que c'est comme c'est toi qui vas filmer.
Oui.
Alors, tu prends ça.
Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre pour filmer.
Je pense que ce qui peut être pas mal, alors, parce que tu vois, c'est complètement différent si tu la tiens comme ça ou comme ça.
D'accord.
Enfin, pour le casque, c'est pas hyper différent, mais quand même, parce que ça, c'est l'avant.
Ouais.
Donc, tu vois, si tu te mets comme ça, tu seras à l'avant. Donc voilà.
Okay.
Peut-être que ce qu'on va faire pour que vous voyez un peu comment ça se passe, c'est que je vais la déclencher parce que c'est intéressant de voir au niveau du tournage ce qu'on peut faire. Je vais la déclencher avec le téléphone. Donc là, il est en train de se connecter pour que vous voyez un petit peu la manipulation.
S'il y a des étudiants qui veulent filmer, moi je veux bien laisser ma place. Hein. Ça me gêne pas du tout.
Non, mais tu vas être super. Donc, vous voyez, là, c'est assez marrant. Je ne sais pas si vous voyez. On peut se balader dedans en Bluetooth. Et alors, vous voyez, c'est rigolo, les doigts. Hein, c'est comme si la caméra n'était pas là. Hein. En fait, il y a un peu de recouvrement entre les deux. Ce n'est pas 180-180, c'est 210-210. Donc, ça annule l'endroit de la caméra. Alors, est-ce qu'il y a des idées parmi vous de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Claire ? Parce que n'oublions pas que quand même, justement, c'est la différence entre la pratique amateur quotidienne de fabrication d'images et de transmission d'images, qui est une pratique identitaire, et puis la pratique artistique, qui peut être faite, à mon avis, par n'importe qui, et pas seulement par des artistes patentés. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs, ces choses-là ? Et donc, du coup, je crois que derrière la pratique artistique, il y a une intentionnalité. Soit vis-à-vis de quelqu'un, ou soit vis-à-vis d'un objet, d'un sujet, il y a la volonté de faire quelque chose, en fait. Hein. C'est pas juste
toi,
faire pour
faire.
Moi, je m'étais dit que ça pourrait être un travelling parmi les gens. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de pas être passif, vous, justement. Et on parle du spectateur passif-actif, c'est-à-dire que vous proposez-vous aussi quelque chose, si vous en êtes d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'apparaître à l'image, vous n'êtes pas obligé. Vous mettez par exemple un bonnet ou un casque, ça peut être marrant à la Daft Punk, ça peut être assez rigolo d'avoir un personnage comme ça. Mais en tout cas, proposer quelque chose, peut-être de plus que juste de rigoler de façon narquoise face à la caméra, vous voyez. Donc,
de se passer la caméra comme un relais.
Ah, de se passer la caméra.
Ah, super.
Quelle bonne idée.
Excellente. Comment ?
Se la lancer.
Alors, j'ai souvent essayé ça. Ça donne pas beaucoup de. Enfin, c'est pas génial, mais celle-là, je l'ai.
Un peu, quoi.
Celle-là, tu sais, je l'ai déjà mise dans la gueule d'un chien. C'est assez.
La passer de main en main.
Alors, du coup, voilà. Alors, en fait, ce que je te propose, c'est de faire le début. Donc, je vais dire ça tourne, et c'est toi qui fais le début pour Claire. Et ensuite, on la passe. Et alors, vous faites comme vous voulez. Essayez, en tout cas, de pas aller trop vite, de prendre le temps. Voyez, parce que ça va très vite, en fait, ces images. Et a fortiori, imaginez Claire qui regarde ça dans un casque. Hein. Faut quand même penser à elle et ça bouge vite. Ouais, parce que déjà qu'elle était malade ce matin.
Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple.
Ouais.
Le fait qu'une coïncidence entre les mouvements réels de son propre corps et les mouvements à l'intérieur, c'est mieux. Là, ça va bouger à l'intérieur du casque pour elle, alors qu'elle ne bougera pas. Ça crée des
aises. Donc il faut qu'on soit doux quand même avec elle. Alors, c'est toi qui fais l'introduction. Alors attends, une seconde. Attends. Alors, le son dans cette caméra, il y a 4 micros, il est enregistré de façon spatialisée. Donc, si elle a un bon casque, en effet, on peut jouer avec le son. Des sons qui amènent... excellente idée. Jouons avec le son. Et soyez actifs, quoi. Soyez pas tout mou et tout... Faites un truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est facile à dire ce que je dis. Et je sais à quel point c'est difficile à faire. Hein. Je le sais. Mais c'est pour ça que je le répète et que j'insiste.
Il y a un micro sur la caméra ?
Ouais.
Ah oui, il y a 4 micros même. Hein. Elle enregistre le son de façon spatialisée. Donc, alors, tu es prête, Caroline ? Ça tourne, c'est quand tu veux.
Donc Claire, on est tous à Louis Lumière. On a une pensée pour toi. Et du coup, l'exercice que nous a demandé
Benoît, c'est de créer quelque chose avec toi, malgré ton absence. Donc je vais commencer l'exercice tout de suite, et normalement ça devrait donner un film.
Merci, bonjour Claire, Pascal, on devait se voir, on devait discuter. Un bon rétablissement à vous, si vous passez quelqu'un dont le prénom vous sera certainement familier, puisqu'il s'agit de Claire.
Alors, zut, parce que c'est ce que je voulais dire. J'avais envie de dire bonjour Claire, je m'appelle Claire.
Bonjour Claire, et puis je passe le relais.
C'est facile.
On est en train de réaliser une réalité virtuelle à partir d'une réalité réelle.
Aïe.
Bonjour Claire.
En fait, on va juste regarder ça. Et puis ensuite, il parle et on
va poser des questions peut-être.
Ouais, on lance l'échange après.
Il va être beaucoup plus long.
Non, non, ça s'est pas du tout arrêté. Et ça, c'est bon à savoir, c'est que elle continue à tourner. Même si le téléphone s'est déconnecté, elle est lancée et elle continue à tourner.
Bonjour Claire, tu vois, je suis vraiment trop petit message.
Bonjour Claire, bah, ce film était pour toi, j'espère.
Ah, il y a des gens qui l'ont pas. Oh.
Ah, ça l'a remonté, pardon.
À un moment, oui, c'est le Bluetooth c'était trop loin, donc quand il dit prévisualisation non disponible, c'est que le Bluetooth ne capte plus. C'est marrant. Ben voilà, Claire, j'espère que ça t'a plu. On a fait de notre mieux, hein, c'est l'art comme expérience. Voilà, je vais couper. Alors, il y a beaucoup de mise en abîme, hein, comme tu peux le voir. C'était un petit peu l'idée de cet exercice. Et je vais l'arrêter, peut-être en faisant vraiment une mise en abîme, tu vois, un Larsen vidéo comme dans les années 90, mais là, dans les années 2019. Salut! Bon, voilà. Ce que je vous propose peut-être, donc je vais mettre ça en ligne derrière ce QR code. Ce que je vous suggère de faire, c'est de le prendre en photo. Comme ça, vous l'aurez. Pour le moment, j'ai mis juste derrière ce QR code, si vous le flashez, j'ai mis juste la photo que Claire a publiée hier de la journée d'hier, là où on voit une phrase assez complexe et très belle sur l'écran. Donc c'est ça qu'il y a derrière le QR code et je la laisserai, puis je rajouterai ce qu'on vient de filmer. Mais pendant ce temps-là, et ceux qui ne savent pas du tout comment ça marche, ben, vous demanderez à votre voisin tout à l'heure qui vous expliquera comment faire.
Il n'y a même pas besoin de savoir comment ça marche.
Ça, c'est parce que vous avez un iPhone, c'est pour ça. Mais si vous avez un téléphone Android, il faut installer une petite application QR code ou flash code. Donc là, ben, on part en discussion sur ce qu'on vient de vivre ou tout ce que vous voulez. Je rappelle sur la question de la création, cet enjeu-là.
Alors du coup, oui, j'avais peut-être une première question pour vous deux. Avec Claire, justement, on travaille sur un numéro ensemble sur la réalité virtuelle. Et on a réalisé beaucoup d'entretiens avec différents acteurs de la réalité virtuelle et notamment les producteurs. Donc du coup, j'avais une question pour vous. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui venaient du documentaire et qui étaient passés en fait directement et qui étaient très attirés par la réalité virtuelle. Et comme vous évoquiez le fait de plonger dans un univers et que forcément le mot réalité n'était peut-être pas le mieux adapté, je voulais peut-être revenir un peu sur votre parcours, savoir si vous aussi vous veniez du documentaire et puis justement cette mise à distance avec le mot réalité, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus?
Oui, alors si je me rappelle très très bien les vieux cours de Jean Rouche qui donnait plus des cours mais qui était encore professeur quand je faisais le DEA de cinéma anthropologique à Nanterre, c'est la caméra réellement l'outil d'exploration du réel. Et la caméra donc ne renvoie pas le réel. Il y aura toujours le regard de celui qui est filmé, qu'on appelle la profilmie, comme le regard de celui qui filme, qui a réellement un échange incessant. Et je pense que la réalité virtuelle, c'est ce que je disais, elle renvoie aussi à cette chose-là. Parce que peut-être qu'on filme pour quelqu'un quelque chose, qu'on essaye de l'inciter à voir ça. D'ailleurs, en documentaire, bon, c'est un outil extraordinaire. Enfin, imaginez pouvoir être, je sais pas, au cœur d'une cérémonie comme Jean Rouch a filmé dans 360, je pense qu'il aura adoré l'outil. Hein. Mais je reviens, donc en tout cas, on filme pour quelqu'un en voulant lui montrer quelque chose, mais la personne va avoir sa propre attention, sa propre lecture. Et c'est vrai que dans un espace qui est plus libre, juste parce que plus grand, parce que plus grand que le 16-9, parce qu'une image panoramique, c'est déjà une écriture particulière par rapport à une image carrée.
Ouais.
Parce que, et une image sphérique, bah, c'est encore plus grand. Donc à chaque fois, on offre un peu plus de liberté à l'utilisateur. Je parlais de Simulac, c'est parce que c'est vrai qu'on parle aussi de réalité virtuelle. Donc c'est ce que je fais, moi, c'est réalité mixte, c'est aussi avec des moteurs, le fait de se déplacer dans l'image. Avec des outils, ce ne sont pas du jeu, des vidéos, hein. Ça sert aussi des narrations. Et en fait, à chaque fois, c'est offrir plus de liberté au spectateur, donc il devient de plus en plus acteur de ce qu'il fait. Et je pense que je pense que si le documentaire a voulu prendre ces outils et y aller d'abord, je pense que c'est déjà parce que les gens du documentaire sont ceux de l'expérimentation aussi.
Oui.
Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une question? Oui. Alors, je vais me déplacer. Je vais non, mais parce qu'en fait, on vous entend pas toujours bien en bas.
C'est le principe.
C'est pas une question en fait, c'est une réflexion. En tant que spectateur, pour avoir testé justement des documentaires pour suivre sur votre réflexion, donc des documentaires en 360. Et souvent, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a des changements de point de vue. C'est-à-dire qu'on va se retrouver une fois en point de vue zénital, une autre fois au milieu, enfin je veux dire au ras d'une voiture. Et on enchaîne comme ça les points de vue, les plans séquences. Et c'est très perturbant parce que qu'on soit assis, qu'on soit debout, on se rend compte qu'on nous transporte, on va dire visuellement, dans des états de vision qui ne correspondent pas. Ah, en tout cas qui ne stabilise pas du tout notre point de vue dans le parcours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans les différents films documentaires que j'ai pu voir. Et d'autant qu'on est en cinématique, c'est-à-dire qu'on est dans du réel, et que là, pour le coup, en termes de perception, il n'y a aucune ambiguïté dessus, on le ressent d'autant plus fortement. Et ça, je ne sais pas si c'est des choses qui sont abordées justement dans les écoles de cinéma, mais en termes d'expérience de spectateur, c'est très, très déroutant.
Il y a différents outils ici qui ont été mis en place, donc qui sont des outils informatiques, pour faire en sorte que ce sont les points d'intérêt de l'utilisateur qui enchaînent le montage de la séquence suivante. Mais ce ne sont pas des évidences comme du cut, comme on fait en cinéma classique. Et en même temps, je pense qu'on est au balbutiement de cette écriture. Ces expérimentations, on est dans du Ziga Vertov, on est au tout début. On tente beaucoup de choses. Ah, c'est très bon. C'est très bon, mais les premiers qui ont vu ça, ils ne comprenaient pas le rythme.
Oui, mais il y a une écriture quand même. Dans Ziga Vertov, il y a une écriture qui traverse tout l'homme à la caméra, je veux dire, toute une réflexion
oui.
sur l'image. Là.
Oui, oui, mais je pense qu'en VR, il y a des gens qui réfléchissent aussi.
Ah non, mais j'en doute pas, c'était juste une réflexion.
Mais on est au balbutiement. Et on est aussi au balbutiement de l'outil.
Et ouais. En fait, moi, je pense qu'on est au balbutiement, mais surtout, on met beaucoup la charrue avant les bœufs, à mon avis. C'est-à-dire qu'on demande à cet outil cette espèce de fantasme, de l'immersion qui est vraiment un fantasme humain, alors que peut-être qu'on va faire autre chose que ça avec. Et on le voit bien, par exemple, avec l'application VR de Netflix, où en fait, on va s'asseoir dans une salle de cinéma et à côté de soi, on a les avatars de nos copains, mais on est face à un écran rectangulaire aussi et on partage cette expérience à distance avec des gens. Et ça, c'est vrai qu'a priori, vu toutes les possibilités narratives, nouvelles, etc., qui sont tout à fait intéressantes, hein, c'est pas pour dire que... Mais en fait, là, on en revient à quelque chose de plus simple et que parfois, c'est pas les technologies les plus pointues qui sont... les plus opérantes en termes de à la fois de créativité et puis de capacité d'échange humain. Par exemple, on parlait de Twitter tout à l'heure. Twitter, ils sont quand même basés sur une technologie, c'est 2009, hein, Twitter, ils sont basés sur une technologie qui était vieille comme Hérode, qui était le SMS. Alors que déjà depuis plusieurs années, les opérateurs lançaient le MMS à la place. Mais non, ils sont basés sur quelque chose de très ancien, mais de très opérant en fait. Et donc je pense que là-dessus, moi personnellement en tant qu'artiste et puis en tant qu'animateur de workshop, etc., par exemple avec la FEMIS, on a tourné des choses qu'on a diffusées parce qu'il y a la question du collectif. On fait une restitution devant 100 personnes, on fait comment avec la réalité virtuelle, enfin, voyez. Et puis se rassembler ensemble entre êtres humains, c'est quand même chouette. Enfin, je veux dire, on est toujours des humains de chair et de sang. Et donc, on a fait un film conçu pour la salle, c'est-à-dire avec un vidéoprojecteur au milieu de la salle qui tournait, en fait, et qui était appelé justement par le son. Et finalement, tout le monde se tournait, regardait au plafond, derrière, sur le côté. Bien sûr, c'était pas du tout la même immersion que dans un casque, mais c'était drôle. On était tous ensemble et on vivait une expérience tous ensemble grâce à cette technologie en fait et à cette caméra et à toutes ces possibilités. Et donc pourquoi pas faire ce pas de côté ludique en fait qui peut-être va nous permettre de toucher plus les spectateurs, parce que force est de constater que personne n'a ses casques chez eux aujourd'hui. Et puis c'était tout à l'heure, j'entendais que peut-être que Arte va fermer son machin là de son application, on voit bien aussi le côté effet de mode, ce qui est un peu dommage parce que en fait il y a plein de potentialités derrière ces technologies, mais on veut tout de suite que tout de suite les gens regardent des films. Il y a peut-être d'autres choses à faire aussi. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout pour.
Après, vas-y. On est obligé de prendre quand même. Ça fonctionne sur SteamVR. Pour les joueurs, c'est quelque chose qui marche très bien.
Oui.
Il y a aussi absolument. Un énorme croisement dont on oublie de parler parce que bon, le monde du cinéma a voulu s'emparer de la réalité virtuelle comme un outil qui lui est allié. Et il n'empêche que c'est quelque chose d'extrêmement étrange. Et ce que je disais, c'est le croisement avec une interactivité essentielle pour l'utilisateur. Et ça, ce sont les outils du jeu vidéo. Mmh. C'est pour ça que le jeu vidéo, il s'accapare cet outil aussi facilement, peut-être même mieux que le monde du cinéma. Mmh. Par une compréhension autrement, pour vouloir créer du fun. C'est vrai qu'avoir un casque sur les yeux, c'est pas rigolo, c'est un peu lourd, c'est compliqué à mettre. Si c'est pas amusant derrière... C'est pas facile de ramener les gens pour le faire. Mmh. Donc, il y a aussi beaucoup de problématiques qui se posent ici.
Il y a deux interventions. Juste pour revenir sur la question du point de vue dont vous parliez, je pense que c'est aussi une question. Enfin, on a fait un atelier VR à la FEMIS et effectivement, la question du point de vue était centrale au scénario, mais c'est parce que c'est une question très compliquée pour un scénariste. Et quand on veut raconter une histoire ou pour quelqu'un en littérature, quand, à partir du moment où on veut créer un récit, là je mets ma casquette de scénariste, comment gérer le point de vue et comment gérer les changements de point de vue. Il y en a un qui arrive magistralement, c'est Quaron, notamment dans Gravity, mais je veux dire, la gestion de changement de point de vue dans une même séquence, c'est quelque chose d'un point de vue technique en dramaturgie qui est hyper complexe. Donc c'est sûr que quel que soit le dispositif, quel que soit le médium, si on s'attaque à une question très très complexe, bah forcément on peut pas avoir une réussite tout de suite, et ça soulève aussi d'autres questions. Et des fois je trouve qu'on oublie aussi tout l'héritage dans lequel s'inscrit la VR, notamment quand elle amène des questions problématiques. Quoi. C'était juste pour le soulever, parce qu'on fait un parallèle, justement, on parlait du documentaire, et on se sert très facilement de ces petites caméras qui sont extrêmement portables, on a le résultat immédiatement. Et donc, c'était juste une réflexion, parce que je me suis rendu compte, je veux dire, à l'usage, en travaillant avec les étudiants, etc., qu'il y a des points de vue, il y a des sujets qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas, et que cette question du point de vue, qui a un langage cinématographique préexistant, en fait, il est à retravailler à l'aune, peut-être, justement, d'expériences préalables du cinéma, parce qu'on avait Abel Gance tout à l'heure qui était présenté. C'est une pensée de l'espace, c'est une pensée du point de vue, c'est une pensée de la narration qui a un certain langage qu'on redécouvre peut-être, ou qui est à découvrir, et que c'est ça qui est intéressant. Donc c'était juste une réflexion à ce titre-là, parce que je vois dans les festivals beaucoup de documentaires, d'expériences qui se disent documentaires, et je me rends compte qu'il y a des moments où on sort du sujet simplement parce que tout d'un coup ça ne matche pas, c'est-à-dire que la projection qu'on se fait dans l'image, ou le parcours qu'on fait dans l'image, tout d'un coup vient être interrompu parce qu'il y a ce changement de point de vue qui nous fait sortir en fait du sujet. C'est tout. Merci beaucoup.
Absolument, mais je voudrais pas être redondante parce qu'il y a déjà eu plein d'éléments de réponse qui vous ont été donnés, mais la question du point de vue, elle est effectivement centrale. Après, il faut se poser la question du genre, et il faut se dire effectivement qu'on est au tout début d'une histoire, d'un art, et qu'il faut voir ce terrain de jeu comme quelque chose de très nouveau à défricher, et que quand la question du point de vue est maîtrisée et que volontairement on change ses points de vue, effectivement aujourd'hui ça pose tout un tas de questions de motion sickness. Quand c'est maladroit, c'est très désagréable. Mais je pense qu'au contraire, prenons-le comme quelque chose de positif, et que quand cet art sera totalement maîtrisé, avec des grands réalisateurs ou des grands talents qui s'empareront des possibilités, cette possibilité de changer comme ça de point de vue et de permettre... du coup quelque chose de très nouveau en fonction de, enfin, comme réception du message, ce sera un truc positif. Moi je vois beaucoup beaucoup de films, effectivement, parce que je passe ma vie à voir tout ce qui se passe dans les festivals du monde entier, et il faut vraiment être très humble et très modeste et se dire qu'aujourd'hui effectivement il y a 9 films sur 10, et encore je suis très gentille, qui sont pas bons, mauvais, mais ça a le mérite d'exister. On est tous en train de défricher, et je pense que par contre, quand cet art sera bien maîtrisé, on aura des choses exceptionnelles, y compris dans le documentaire. Mais c'est vrai qu'après, en fonction des genres, on peut moins jouer avec ça. C'est vrai que si on est dans quelque chose de très narratif, proche du jeu vidéo, dans l'animation par exemple, on est beaucoup moins gêné par ces changements de point de vue. En documentaire, ça reste encore quelque chose de très délicat, mais qui, à mon avis, quand ça sera maîtrisé, ça sera vraiment un plus pour le documentaire.
Ça tourne.
Merci. Il y avait une remarque.
Claire, on est tous à Louis Lumière, on a une pensée pour toi. Et
Alors, on parlait de point de vue, on parlait d'interactivité. J'ai une question et puis un petit coup de gueule. La question, c'était par rapport au point de vue de l'interactivité. Qu'est-ce que vous pensez du S-tracking, mais du déplacement par rapport à la pupille du regardeur? C'est-à-dire qu'on peut gérer une interactivité
avec sa
par rapport à la pupille. Oui. Donc, c'est intéressant de jouer là-dessus, parce qu'on peut, comme on est subjectif, on peut se déplacer en subjectif en fonction de son. Ça, c'était la question. Et après, j'avais un coup de gueule parce que j'entendais Benoît parler de salles pour le 360 et tout. Et hier, j'étais au Grand Palais, voir Wenders au Grand Palais, et voilà, et c'est n'importe quoi. Donc, donc il faut se méfier de l'atelier des lumières, quoi, par exemple. Voilà.
En tout cas, là, moi, je te remercie pour tout ce que tu dis et puis ton intervention préalable. Je crois que c'est hyper important d'avoir un regard critique, et c'est pas forcément un regard malveillant, mais de prendre un petit peu de distance sur tout ce qui est en train de se passer, et surtout de sortir des discours marketing et qui sont vraiment du marketing, parce que c'est vraiment les fabricants qui ont voulu lancer, les fabricants, c'est-à-dire Samsung et Facebook, qui ont voulu lancer un truc, et puis ça marche pas, ben c'est pas grave, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant. Mais c'est vrai qu'aller comme un seul homme produire plein de contenu pour ça, que le Centre National du Cinéma mette énormément d'argent juste pour ça, au détriment d'autres projets où il y a des réflexions de fond sur l'immersion, sur l'interactivité, qui peuvent être passionnantes, mais que tout à coup c'est pas dans la mode, c'est là où ça peut être un petit peu irritant, parce que comme tu le dis très bien, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas forcément très intéressantes, et cette espèce de d'effet de mode, voilà, et c'est tout, et c'est voilà, mais c'est pas grave. Mais
par contre, bon, ton idée d'avoir un projecteur qui bouge en fonction du public pour que tout le monde voit, c'est intéressant. Il y avait eu au Frénois une jeune artiste qui avait fait son diplôme comme ça, avec une espèce de robot projecteur, en fait, qui tournait, c'était très très intéressant. Il faudrait peut-être que tu
regardes. Ouais.
Ouais. Bon, sur le eye tracking, moi, en tout cas, je vais quand même répondre. Alors, le eye tracking, en termes d'interactivité, ça pousserait à vouloir avoir des actions inconscientes de la part de l'utilisateur. Je pense pas du tout que ce soit quelque chose qui fonctionne tant que ça, parce qu'après tout, on regarde pas seulement là où on a un intérêt, on a peut-être envie juste de jeter un coup d'œil, à partir de quel temps de réaction on va dire que l'utilisateur il s'y retrouve, etc. C'est le principe du gaze. Le principe de la manette est décidé quand on y va, il est quand même plus pratique en fin de compte. Et on peut regarder aussi longtemps quelque chose qu'on veut, de la distance dont on le veut, sans néanmoins, en termes de revenus publicitaires, ça va être très intéressant le tracking pour le placement de produits. À quel endroit de mon image je mets tel élément, etc. Bah, non mais c'est donc je pense qu'effectivement, ça aurait été aussi bien développé plutôt à but financier.
Il y avait une intervention.
Oui, j'avais. Allô, oui.
Oui, c'est bon.
Je ne sais pas. J'avais juste une remarque justement sur le projecteur qui était robotisé. Il y avait une expérimentation qui avait été faite à l'école des mines sur des problématiques de multi-résolution, tout simplement parce que la résolution de l'œil humain est importante dans le centre d'intérêt justement de l'utilisateur, et d'avoir en fait une première projection qui était low résolution, qui permettait d'avoir un champ de vision beaucoup plus important, et un autre système autorisé qui suivait justement l'œil humain. Il y a eu un article qui avait été proposé à VRST, je crois, de l'école des mines, et c'était quelque chose qui était intéressant justement pour essayer de gérer les problèmes technologiques liés au fait que il nous faut des résolutions très importantes, parce qu'on capte à 360 degrés, donc du coup le pixel il est très gros par rapport à l'ensemble. Du coup, on se pose la question de est-ce qu'il ne faut pas aussi des systèmes qui encodent l'information, qui décodent l'information en fonction du point d'intérêt de la personne et aussi en fonction de l'endroit où l'information est la plus pertinente. Après, j'ai une autre question qui est sur justement la narration et sur justement le jouer avec l'intérêt de l'utilisateur. Et il y a des choses qui existent dans le domaine de la théorisation de la réalité virtuelle qui s'appellent des aides logicielles cognitives qui permettent d'attirer l'attention ou d'attirer certains attraits de la perception de l'utilisateur sur des objets. Et c'est fait aussi pour lier à des problématiques de perturbation sensorimoteur parce qu'on n'est pas immergé avec les dispositifs de réalité virtuelle aussi bien qu'on est dans la vie réelle. Et du coup, il faut compléter ces manques par justement des aides logicielles qui permettent de dire à l'utilisateur, l'action qui est demandée, c'est pas exactement la même action que dans la vie réelle, c'est une action similaire à l'aide d'une manette, et on montre à l'utilisateur quelle est l'action qui est demandée pour après aller plus loin dans la narration. C'est très courant dans le domaine du jeu vidéo, et je pense que ça peut être quelque chose aussi qui peut être très dans le domaine du documentaire, et il y a des choses à voir et à théoriser justement autour de ça. Enfin, j'invite la communauté du cinéma à regarder ça.
Non, mais effectivement, c'est la fameuse question du tutoriel, et elle est très importante sur tous ces exemples. Ensuite, effectivement, quand on parle du champ de vision de la réalité virtuelle, dans la plupart des expériences, maintenant, on floute en fait ce qu'on voit sur le côté. Quasiment tous les gens avec qui je travaille font ça. On peut pas avoir tout net. On pourrait, mais ça a pas d'intérêt. Vaut mieux que ce soit net en se déplaçant. Et surtout, le langage dans le casque, ça reste quand même un langage du montré, du caché, comme dans le cinéma. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et il y a quand même le hors-champ. Même si on peut se retourner tout d'un coup le mettre dans le champ, mais on vient de créer un autre hors-champ. Donc c'est vrai que le langage reste quand même le même.
J'ai un petit élément à ajouter là, puisque ça n'a pas du tout été évoqué jusqu'à présent, mais pour moi ça me semble fondamental pour être ici dans cette école, c'est la lumière. On n'a pas du tout évoqué le rôle de la lumière, et je pense que c'est vraiment, pour nous en tout cas ici, puisque donc on est ici à l'école, c'est vraiment notre outil pour... notre outil de langage finalement. On se sert de la lumière pour guider le regard, conduire le regard, construire des lignes dans l'espace, organiser l'environnement. Et voilà, donc on a parlé du point de vue, de toutes les difficultés du point de vue, effectivement, c'est une des dimensions. Mais la lumière, qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est important la lumière? Voilà.
Je peux juste rebondir sur ce que vous dites. Justement, ce qui était très intéressant et enrichissant quand on a fait cette expérience-là d'atelier VR à l'école, c'était de voir à quel point les scénaristes pouvaient réinvestir en fait des questions techniques et pour les dramatiser. C'est-à-dire que la question de la lumière, la question de la spatialisation, les choses qu'au scénario, des fois, on peut laisser quand on est sur, de l'organisation de l'espace et même du son, des choses qu'on peut laisser au second plan ou dire laisser à un autre corps de métier, là, voir comment on l'investit et on l'investit. Du point de vue de ces enjeux dramatiques. Voilà. Et effectivement, la VR, elle a cette qualité-là vraiment très très forte pour la dramaturgie de considérer beaucoup plus la technique. Et je trouve ça intéressant.
Et moi, je rajouterais que ça replace le travail du chef opérateur au centre de la réflexion de l'image, là, d'une manière cruciale par rapport à la narration.
Ouais.
Ah, pardon, je reviens.
T'en prie.
Excuse, je fais la question en anglais. Si ça va. Ok. I would like to follow on the issue of lighting, which is so important, and it's so much a question of even the value of cinema in the age of VR, thinking over the last few days, and even though I teach it also in a film program.
Est-ce que vous avez besoin de traduction ou pas par rapport à ce que
j'ai
ou c'est bon? Sinon,
on
peut traduire, c'est bon,
c'est bon.
Ça va? Il y en a
qui vont
bien.
Ouais. Alors, c'était juste l'idée, c'était de dire que la lumière, c'était un point central effectivement pour dans le cinéma et du coup aussi dans la question de la VR. Donc là, et vous rejoignez là-dessus.
Et le futur du cinéma, peut-être.
Et le futur du cinéma, et il enseigne aussi à l'université à Oslo. Ouais.
That the Temple University.
Okay.
The narrative structures in VR are coming from gaming, from electronic literature, from theater, and very much from social media. The acting style, the voice, is coming from social media use, from multiple camera positioning, from the green screen layering. Lighting is coming through Blender
is coming from Unity, it's coming artificially, if it's added, otherwise it's very limited what one can do with VR. So it's a real question for the traditional cinematographer, or for film even, whether VR, you know, how much film will be central to VR. It's capturing in this conference the centrality of VR because all the money has been coming in, but all the innovation, so much of the innovation, has been the interactive innovation between the forms that we're seeing, of which film has to reposition itself, because really the creative narrative structures, the play, the movement, are coming from all of these other forces. And so there's a question of what film can do, and it's lighting is one of the key questions, because the role of a cinematographer, painting is light. Well, that's not quite, doesn't happen in VR now. So there's a question of, well, what would be the best role? Or does the whole concept of a cinema school need to be rethought? If really lighting is coming from these artificial sources and viewing is happening on Facebook, and VR is an AR and XR are out in the field and not in the cinema, what do we need to do next? In our institutions.
Ça allait à peu près parce que je. Mais c'est juste en fait l'idée c'est de. Je crois, si j'ai bien compris. C'était que en fait il y a plein. Maintenant il y a aussi plein d'innovations techniques qui s'ajoutent en fait à une façon de penser en fait l'éclairage dans une. Parce que. Qui sont pas forcément les mêmes que au cinéma. Et c'est ça, hein, vous disiez, donc, par exemple quand il y a du fond vert ou quand. Il y a une multiplication en fait de composantes. À prendre en considération qui nous amène aussi à repenser la façon dont on doit considérer l'enseignement de la lumière puisque les sources sont plus tout à fait les mêmes que dans le cinéma traditionnel ou en tout cas oui, il y a une réaction par rapport à ma tentative de traduction.
Non. Bon, je vais réagir en français. C'est vrai que le rôle de la lumière est très intéressant et très important quand on fait des expériences de réalité virtuelle parce que on va mêler des prises de vue réelles, des prises de vue virtuelles. Souvent même quand on fait de la captation, de la numérisation d'objets virtuels, la première chose qu'on doit faire, c'est de faire une opération ce qu'on appelle de delighting, c'est-à-dire qu'on va supprimer l'éclairage sur l'objet pour après recréer un éclairage qui est cohérent avec la situation de l'objet. Et ça, on est obligé de faire des algorithmes qui suppriment la lumière pour après la recréer, la sublimer et la remettre justement, la repenser en fonction de la manière dont on va mettre en œuvre la scène et l'objet qui a été numérisé. Et c'est une des grandes problématiques actuellement de la photogrammétrie, de la captation justement tridimensionnelle, parce qu'on n'est pas que sur de la 360, on peut même faire de la captation d'objets tridimensionnels animés, qui tend de plus en plus, justement, avec les systèmes même,
on voit pas animés, on ne fait pas beaucoup encore.
Voilà. Mais c'est compliqué technologiquement, parce que justement, on a une problématique de calage des colorimétries des différentes caméras, et ce genre de choses pour pouvoir faire après de la photogrammétrie après coup. Mais c'est très intéressant de justement dire que la lumière aussi peut raconter une histoire, elle peut attirer le rôle, l'attention de l'utilisateur, et peut aussi guider la narration. Donc c'est aussi important de voir ça. Et les visual effects aussi, des effets visuels. Qui peut reprendre aussi des formes d'aide logicielle cognitive.
Je crois qu'il y a des interventions de Pascal, que je t'ai oublié. Excuse-moi.
Bien. Merci. Tout à l'heure, on parlait de cadre, et c'est vrai que bon, pour moi, c'est le point de vue qui me semble le plus important. Ça a été dit à plusieurs reprises. Parce que le cadre, à partir du moment où le point de vue est défini, le cadre, c'est la personne qui aura le casque qui provoquera. La notion d'immersivité, elle a toujours été présente. Je crois que Jean-Jacques, tu l'as dit, tu as montré des images. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites au 19e siècle. On a voulu, en fait, à chaque fois, retrouver le côté plus ou moins naturel. Et moi, je voulais parler de quelque chose qui n'a pas encore été évoqué, même si, effectivement, dans les casques, on va utiliser les deux yeux, c'est le relief. Et par rapport au relief, qui est un domaine que je connais un tout petit peu plus, finalement, l'expérience a montré, on a connu dans les années 2000, une recrudescence du relief, le relief arrivé. Bon. Et beaucoup ont dit, c'est l'avenir, demain, tout va être tourné en relief, tout sera réalisé. D'ailleurs, à proprement, on appelait ça de la 3D, qui est une erreur. Tout va être tourné en relief, la télévision sera en relief, etc. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est que c'est complètement abandonné, trouver un téléviseur relief, un 3D qu'ils appellent, donc là, là par contre ils donnent cette appellation 3D, c'est quasiment impossible pour des gens comme nous qui travaillons et qui avons besoin encore de ce type d'outils. Et seuls les films qui ont marqué l'imaginaire au niveau du relief restent ceux qui avaient été construits, qui avaient été pensés relief. Bon, parmi eux, tu parlais de Wim Wenders, pour moi l'un des meilleurs films qui a été réalisé, c'est Pina.
Pina, voilà. Bon,
Pina reste le film par définition où le relief trouve sa place. Pourquoi ? Certainement parce que c'était, ça s'y prêtait au niveau de la gestuelle, au niveau de la danse, mais en même temps parce que c'était dans un théâtre et il y avait tout un ensemble. Et en même temps, donc faut peut-être s'interroger sur ces techniques. Je suis tout à fait d'accord avec cet effet de mode. Il y a un effet de mode, la VR, tout le monde en parle beaucoup. Bon, les casques, un casque ça coûte une dizaine d'euros, hein, qu'on le met avec son téléphone, et puis on voit des choses, bon c'est marrant un petit peu. Est-ce que il faut souhaiter qu'il en reste quelque chose dans 10 ans, peut-être même avant, dans 5 ans? Je parle d'un point de vue de la création. Parce qu'il y aura des applications où ça fonctionnera, évidemment. L'apprentissage, on le voit en médecine, on le voit par exemple en termes d'apprentissage, je suis un petit peu documenté sur la question et montrer des personnes qui apprennent, des grutiers, qui apprennent à conduire ces énormes grues là qu'on voit dans les travaux. Bon, bah, évidemment, mettre quelqu'un avec un casque, comme d'ailleurs ça existe dans le point de vue dans l'aéronautique avec les simulateurs de vol. Bon, il y a des applications dans le domaine de la médecine. On montrait des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on leur montrait des images de lieux où ils étaient allés, et ce qui est absolument génial, c'est que certaines d'entre elles qui ne parlaient pas se sont remises à parler en décrivant le lieu dans lequel elles étaient allées 30, 40 ou 50 ans auparavant, parce qu'on sait tous qu'Alzheimer, c'est justement la mémoire immédiate qui commence à être détruite, mais que la mémoire ancienne est présente. Donc il y aura des applications, il faut pas. Moi j'ai un petit peu de réserve par rapport à toutes ces à la technique du VR. Je m'en méfie, non pas avec une forme de conservatisme, mais par aussi l'exemple du relief que je signalais tout à l'heure, à savoir qu'on attendait beaucoup, et si aujourd'hui il n'existe plus, c'est essentiellement, ou quasi plus, c'est essentiellement pour des raisons commerciales, mais aussi, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas su s'en emparer d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue de la pensée, et d'un point de vue du fait de travailler les œuvres par rapport à ça et dans ce but-là.
Oui, mais souviens-toi, la 3D, en fait, la résurgence de la 3D, c'était contre la copie. C'est aussi les studios américains.
Alors, je vais parler de l'aspect commercial, mais c'était contre la 3D. Et pourquoi la 3D? Je vais parler plus fort, c'est la fin de micro.
Non, mais c'est parce qu'en fait, on a une séance après, on a beaucoup de retard, et du coup, c'était juste. Je suis désolée, parce que je suis Mais si on veut être un peu dans
la 3D, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive exactement comme le cinémascope en 1953 pour lutter contre la désertification des salles de cinéma. Ouais. Et la 3D, elle arrive pour ça, pour des raisons commerciales. Sauf qu'on a un argument technique qui n'existait pas alors, c'est qu'on peut projeter deux images en même temps grâce à un dispositif numérique.
Merci beaucoup. Merci.
Juste fait un ruban de Moebius et du coup, j'ai fait rejoindre réalité et virtuel, pour dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure.
Merci en tout cas à nos intervenants.
Merci.